Carnet de campagne avec la CARAC, mutuelle d'épargne et de retraite engagée pour votre patrimoine. Rendez-vous sur carac.fr. France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet campagne, bonjour. Cette semaine, nous allons naviguer entre le département de l'Ariège et d'autres destinations porteuses de solutions. Dans l'Ariège, nous vous proposons la longue et belle histoire, mais dont les prolongements sont plus difficiles que prévu, du relais montagnard, porté par un collectif depuis 2014 à Bonnac. Irazin, bar, restaurant, gîte d'étape, le relais a aussi réalisé les menus de la cantine scolaire avant que la commune concernée ne se tourne vers une cuisine centrale plus éloignée. L'étonnement nous a poussé à en savoir davantage. Nous prendrons ensuite la direction de la Saône-et-Loire pour découvrir un organisme encore rare qui favorise l'emploi de personnes handicapées en milieu ordinaire. Il s'agit du pôle départemental d'insertion professionnelle.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Sylvain Picard, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand, ravi d'être avec vous aujourd'hui.
Pareillement. Vous êtes à l'origine une bande de copains et vous vous êtes retrouvés en Ariège en créant un collectif que vous avez appelé bizarrement l'autruche volante. Pourquoi ce nom ?
Alors, pas de raison particulière, si ce n'est que pour des facilités techniques, on a repris une association qui existait déjà et qui n'avait plus d'activité et qui s'appelait l'Autruche Volante.
Et donc vous avez décidé de vous investir sur une auberge qui est le Relais Montagnard, qui est sur la commune de Bonnac-Irazin.
Oui, alors à l'origine, c'est l'ancien presbytère de la commune qui a été transformé en gîte d'étape, restaurant et bar dans les années, à la fin des années 70, début des années 80. Donc on est sur une variante du GR10. Et nous, on a repris ce gîte d'étape resto-bar en mai 2014. On accueille évidemment des randonneurs. Notre restaurant et notre bar s'approvisionnent en majorité en produits bio et locaux. Et on essaye de le faire en maximum avec des producteurs en direct.
Quand j'additionne tout ce que vous faites avec le restaurant, le bar, le gîte d'étape, les produits locaux, le potager, tout ce qui alimente le resto-bar, la réédition d'un topo-guide du Castillonnais, des activités culturelles également, je vais mentionner quand même que vous êtes devenu un prestataire exemplaire pour alimenter les cantines, et entre autres les cantines des écoles de la vallée du Bureau, c'est entre autres l'école de la commune de Saint-Ain.
Oui, alors ça c'est un projet qui a été monté en lien avec les parents d'élèves et les élus, y compris les maires des communes locales, pour approvisionner la dernière école de la vallée qui se trouve sur la commune de Saint-Ain, à 1,5 km du relais montagnard. Et donc ce projet, il a mis 2 ans à voir le jour. Entre 2015 et 2017, il était à l'étude. Et en septembre 2017, la première livraison de repas a eu lieu. Et miracle des cantines bio locales, ça se retrouve un petit peu partout dans les petites communes. Quand il y en a une qui s'installe, en général, il y a une augmentation des effectifs et parfois des ouvertures de classes. C'est ce qui nous est arrivé en 2018 avec la titularisation d'un deuxième enseignant. Du coup, il y a maintenant 2 classes.
Vous êtes passé en société coopérative d'intérêt collectif en 2020. Vous employez jusqu'à 13 salariés avec la haute saison, soit environ en moyenne 6 emplois à temps plein chaque année. Vous avez créé aussi un relais montagnard itinérant.
Oui, alors ça a été le résultat d'un appel à projet qui était un budget participatif de la région Occitanie. Donc c'est avec de l'argent public, quoi, de la région. On avait imaginé un relais montagnard itinérant, donc avec qui puisse délocaliser l'ensemble de ses activités, notamment gastronomiques et de diffusion artistique et culturelle, pour pouvoir aller sur des territoires peu dotés en offres culturelles et gastronomiques. Et on espère bien qu'à partir du printemps 2022, on puisse déplacer cette caravane.
Alors, j'ai pas terminé, il y a un festival aussi, le festival Bonnac-Plage, un petit festival familial, tout va bien. Ce que vous faites est remarquable. Mais le souci, parce que ça devient un souci, c'est que ce presbytère, ce relais montagnard, est la propriété de la commune de Bonnac-Irazin, qui vous pose quelques petits soucis en ce moment.
Alors aujourd'hui, oui, on est en conflit avec la commune. Alors ça dure déjà depuis un an. Mais disons que pour les détails techniques, lors des élections municipales de 2020, il avait été promis un bail commercial, ou du moins un bail de long terme, qui puisse sécuriser nos activités. Et en fin de compte, la majorité municipale actuelle est revenue sur ses promesses. Et aujourd'hui, on n'a pas du tout l'assurance de pouvoir rester encore gérant du relais montagnard. Alors, au-delà des détails techniques, l'enjeu qui se pose, c'est la question de l'accueil de nouveaux arrivants et de nouvelles activités en zone rurale ou en zone montagnarde, ou les deux. Et il y a un enjeu, très probablement, d'appropriation et de dépossession du territoire, alors avec des maladresses qui se jouent évidemment sûrement des deux côtés. Mais voilà, on essaye de maintenir ouvert le dialogue pour réussir à trouver un terrain d'entente pour qu'on puisse poursuivre nos activités.
Mais vous avez des doutes? Vous pensez que la commune, parce que c'est le cas aussi du maire de Saint-Ain, là où vous alimentez l'école, le maire en a profité pour vous retirer le contrat de fourniture et de passer une cuisine centrale qui est à 25 km de là. Il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond.
Pour le moment, non, il n'y a pas de meilleur candidat, il n'y a pas d'offre. En tout cas, si on regarde d'un point de vue écologique et social et de proximité de l'emploi et de maintien de l'emploi dans des rurales, il n'y a pas de meilleur candidat aujourd'hui.
Et pourtant, je le souligne et je le répète, ce que vous faites avec l'autruche volante, c'est quasiment exemplaire. C'est-à-dire qu'on peut en faire une photocopie, se dire, voilà, vous avez un plan économique de développement qui est remarquable en milieu rural. Allez sur le site, c'est relais-trait-d'union-montagnard.org. Je vous souhaite plein de chance pour la suite, Sylvain.
Je vous remercie beaucoup.
France Inter, carnet de campagne.
J'ai à vous confier une opération nationale qui peut vous concerner si vous avez un projet que vous souhaitez réaliser à la campagne. Il s'agit du prix de l'innovation rurale qui va se dérouler pour la deuxième édition au cours du premier trimestre 2022. Ce prix est le fruit d'un rapprochement entre deux mondes encore éloignés l'un de l'autre, l'université et le monde rural. C'est l'université de Paris-Dauphine qui porte ce prix avec le mouvement Bouge ton coq. Ce mouvement crée des épiceries associatives partout en France. Pour sa première version, en mai dernier, sur 92 projets issus de 55 départements, 11 d'entre eux ont été distingués, et au-delà d'une enveloppe financière, l'originalité du prix d'apporter une ingénierie au profit des territoires concernés par les projets primés. À plus longue échéance, l'objectif est de construire une plateforme d'échange et de rencontre entre les chercheurs, les étudiants et les décideurs au bénéfice de ces territoires de la ruralité profonde, comme on l'appelle. Les projets peuvent toucher à l'innovation technologique, sociale, organisationnelle, s'inscrire dans les domaines de la mobilité, des services, accès aux soins, culture, éducation, numérique, agriculture, alimentation. Enfin, les projets doivent se situer ou avoir un impact dans des communes peu denses ou très peu denses, telles que définies par l'INSEE. Les dossiers doivent comporter 5 pages au maximum et ils sont recevables jusqu'au 16 janvier 2022. Il suffit de candidater sur le site d'innovationrurale.fr, innovationrurale.fr. Étienne Giraud, bonjour.
Bonjour.
Étienne, on a manqué le coche lorsque nous traversions la Saône-et-Loire avec vous, mais on se rattrape parce que ce que vous faites aujourd'hui est très intéressant. Vous êtes chef de service du pôle départemental d'insertion professionnelle de Saône-et-Loire. C'est un groupement de coopération, dont 3 associations de Saône-et-Loire qui se sont réunies au profit de l'insertion et surtout du retour des personnes et travailleurs handicapés vers le milieu ordinaire.
Exactement. Pour reprendre un peu l'historique, ça fait maintenant 6 ans, effectivement, que 3 structures du département de Saône-et-Loire, que sont les PEP 71, les Papillons Blancs d'entre Saône-et-Loire et la FOL 58, se sont groupées pour vraiment créer ce groupement de coopération de structures du médico-social. Mmh. Notre objectif, c'est de travailler auprès de l'ensemble des ESAD du département, l'ensemble des IME et TEP et l'ensemble des CESAD, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle le milieu protégé, tout ce qui va vraiment être le secteur médico-social pour les personnes en situation de handicap, afin de travailler les transitions vers le milieu ordinaire.
Et ce qui est intéressant dans votre démarche, mais qui pose problème, c'est qu'en fait l'idée c'est qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui sont susceptibles, en milieu ordinaire et non en milieu protégé, comme on a l'habitude de le dire, de recevoir et d'accueillir des travailleurs, des travailleuses handicapées. Sauf quand on parle handicap, on se dit « Ah, il y a peut-être un intérêt de la part de l'entrepreneur ». C'est des personnes qui n'ont pas nécessairement la notion de la dureté du travail, de la durée du temps de travail aussi, et qui peuvent devenir des objets d'exploitation.
Alors, oui, après, nous, vraiment, on prend le raisonnement un peu à l'inverse. Hein. Nous, vraiment, depuis maintenant 6 ans qu'on travaille, on voit qu'il faut déjà qu'on fasse évoluer les mentalités côté médico-social et de faire comprendre que, bah, finalement, l'ouverture vers le milieu ordinaire est possible. Une fois qu'on a fait ça, bah, c'est déjà de pouvoir accompagner les personnes et les bénéficiaires, ça fait partie vraiment de l'ADN des ESAT, hein, notamment de, ils sont là pour travailler, pour reprendre les personnes et pour les accompagner sur un projet de vie. Et vraiment, c'est de tenter d'accompagner ce mouvement-là. Ensuite, auprès des employeurs, effectivement, les employeurs, alors, vous parlez de la loi, il y a une obligation d'emploi de personnes reconnues travailleurs handicapés. Mais nous, depuis maintenant plus de 6 ans qu'on intervient et sur le nombre de sorties, c'est rare finalement que la motivation première de l'employeur, ce soit uniquement pour une motivation économique. On voit vraiment des personnes et des employeurs qui s'engagent derrière. Et quand on parle de société inclusive, c'est vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire ouais. que les personnes vont vers l'extérieur et également l'environnement et la société évoluent pour pouvoir les intégrer.
Ouais. Mais vous dites auprès des personnels et des professionnels du médico-social, il y a des craintes à voir ce public s'échapper vers un milieu ordinaire ?
S'échapper, c'est pas tant ça. Les craintes, c'est surtout une méconnaissance du milieu ordinaire. Et vraiment de se dire, bah, s'il part en milieu ordinaire, comment est-ce qu'il sera accompagné ? Là, il est en ESAT, il est bien, on peut l'accompagner. Il est en foyer en plus à côté. Ensuite, quand il sort, il a une structure d'accompagnement à la vie sociale. On sait ce que devient la personne. S'il sort, bah, qu'est-ce qu'il va devenir ? Et vraiment, c'est, nous, ça fait partie de cet accompagnement, de dire, bah oui, mais s'il sort, il pourra se réaliser, il peut tout à fait vivre de façon normale dans la société. Et les employeurs, bah, c'est à nous de passer, de pouvoir encadrer ça et de faire en sorte que le tuteur soit formé, que l'employeur comprenne. Et surtout, nous, au sein du pôle départemental, les personnes nous sont orientées quand elles sont en structure. Et quand on signe un CDI, on n'a pas de limitation dans la durée. C'est-à-dire qu'on a des personnes qu'on accompagne depuis maintenant 6 ans, voire même certaines qui sont en accompagnement depuis plus de 10 ans, parce qu'on a repris d'anciens pôles d'insertion.
Quand vous parlez d'accompagnement, peut-être des précisions, Étienne, vous savez, je suis toujours sceptique, parce que dans le mot, il y a plusieurs choses. Mais il lui faut un logement, il y a un suivi, il y a l'entretien de chaque jour, il y a toutes les tâches ordinaires aussi.
Absolument, donc ça, vraiment, c'est ce qui fait partie de notre métier. C'est quand on prend les personnes qui sont en ESAT ou en IME, de bien voir quel est leur degré d'autonomie. Nous, notre travail, quand on travaille l'insertion, c'est vraiment de la travailler dans la globalité. C'est de bien comprendre où en est la personne, soit nous, de faire le travail, l'intégralité du travail, mais généralement, bah, on aime quand même bien travailler avec des experts, et c'est-à-dire de pouvoir se rapprocher des fameux SAVS, hein, dont je parlais, des services d'accompagnement à la vie sociale, de pouvoir trouver le bon logement adapté, et vraiment, ce qu'on parle d'étayage, nous, hein, de travailler tout l'étayage à l'extérieur du travail pour que la personne se sente bien, parce que vous avez tout à fait raison, hein. Notre point d'entrée, c'est l'insertion, et c'est vraiment le travail. Mais vous le savez, en tant que salarié vous-même, hein, tout ce qui se passe à l'extérieur impacte nécessairement le travail.
Ouais. Et depuis un peu plus de 5 ans que le pôle existe, combien de personnes vous avez accompagnées vers le milieu ordinaire ?
Alors actuellement, on doit être à une cinquantaine de personnes qui ont signé des contrats, sur une trentaine de personnes qui sont actuellement en CDI.
Avec ce pôle, vous êtes exceptionnel ou tous les départements en disposent d'un ?
Alors, on est exceptionnel, mais au sens premier du terme. J'aurais pas la prétention de dire qu'on est exceptionnel. On est relativement exceptionnel. Voilà, on doit être un des seuls qui existe en France, ce qui fait notre spécificité. Mmh. Alors, il existe des conseillers d'insertion. Il existe, bien évidemment, le dispositif emploi accompagné qui peut intervenir pour les sortants des ESAT. Vraiment, on est exceptionnel dans le sens où on est un GCSMS, c'est-à-dire qu'on a plusieurs structures qui sont mises ensemble et c'est ça qui fait notre force maintenant, c'est-à-dire qu'on intervient. On ne fait pas partie des établissements dans lesquels on intervient, et ce qui fait que les travailleurs des ESAT ou alors les jeunes qui sont en IME ou en ITEP se permettent de s'ouvrir de façon un peu différente.
Mmh. GCSMS pour Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale. Je le dis pour les personnes qui n'aiment pas les abréviations. Pôle départemental d'insertion professionnelle de Saône-et-Loire, un site que vous allez trouver à nos pages d'émission. Belle expérience à propager. Merci Étienne.
Merci beaucoup.
J'aime bien l'idée lancée par le collectif Avant-Poste, le collectif de Lille. Chahuter la création musicale, trop souvent perçue comme hermétique. À titre d'exemple, cette fin d'année, cette structure organise une résidence conduite par le compositeur Sylvain Chauveau avec une demi-douzaine de musiciens en voie de professionnalisation. Ça s'achèvera par un concert jeudi à 19h. Au Conservatoire de Lille, un concert qui sera 100% acoustique. Il s'inscrit dans une pratique musicale qui se débarrasse progressivement des machines et de l'amplification. J'attends les concerts à la bougie. Et puis dans le même cadre, demain à 19h à l'aéronef de Lille, une conférence de François Ribac sur le thème de la musique face aux défis écologiques. Et dans quelques instants, le jeu.
Carnet de campagne avec la CARAC, mutuelle d'épargne et de retraite engagée pour votre patrimoine. Rendez-vous sur carac.fr.